Bonjour, nous sommes les élèves de la 4e 1 du collège Édouard Herriot de Nogent-sur-Oise.
Dans le cadre d'un contrat départemental du développement culturel financé par le département de l'Oise, nous avons travaillé sur l'interview d'Émilie Ramet, actrice de doublage et voix off dans les publicités.
Bonjour Émilie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à la voix ?
Alors, pour tout dire, j'ai commencé très tôt, mais j'avais oublié que j'avais commencé très tôt. Il y a 4-5 ans, j'ai retrouvé chez mes parents des cassettes audio. J'avais 7-8 ans et je m'enregistrais dessus et je disais que j'étais actrice de radio, ce qui ne veut rien dire. Et je m'amusais à faire des fausses pubs, à prendre mes livres, à les lire à voix haute et à interviewer mes Barbies. Vraiment, je faisais ça et c'était un jeu. Et au final, après, j'ai oublié que ça me plaisait. J'ai fait des études dans une voie qui est complètement différente parce que j'ai été graphiste au début. Et un jour, petit à petit, la voix, le métier de comédienne est revenu à moi. Petit à petit, j'ai pris des cours de théâtre. Et en fait, quand j'ai retrouvé ces cassettes audio, je me suis dit, mais c'est fou en fait. Mes jeux, c'est mon travail d'aujourd'hui. Et voilà. Donc depuis très tôt, apparemment.
Deuxième question. Est-ce que vous avez toujours voulu être actrice de voix off ?
Pas spécialement de voix off. Actrice au sens large, oui, c'est-à-dire faire du théâtre, tourner des films. Et pour faire de la voix off, il faut être actrice. Donc ça fait partie des branches du métier de comédien.
Comment avez-vous eu l'idée de faire ce métier ?
Comme je racontais précédemment, avant j'étais graphiste. Et un jour, je travaillais dans une agence de pub et il y a un de mes collègues qui est passé dans les couloirs et qui a dit « Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour enregistrer une voix off pour un spot radio pour que le client se rende compte que le texte que j'ai écrit soit bien à la radio. » Le client avait besoin d'entendre une voix sur ce texte. Et moi, je n'avais pas de travail à ce moment-là et je lui ai dit « Moi, je suis dispo, je vais le faire. » Et je le fais, et il me dit « mais c'est super ». Et après, les gens ont commencé à me demander à chaque fois enregistrer les textes comme ça, jusqu'au jour où un autre monsieur m'a dit « ok, Émilie, reviens, on va enregistrer une bande démo ». Une bande démo, en fait, c'est un fichier son avec plein d'exemples de ma voix dans différents styles de voix. Et il me dit « viens, on va enregistrer ça et après, avec cette bande démo, tu vas pouvoir envoyer cette bande démo à plein de maisons de production à Paris, par exemple, pour leur proposer ta voix ». Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit, en parallèle de mon métier de graphiste.
Est-ce que vous avez changé de métier en parallèle ?
Oui, j'ai attendu un peu. J'ai attendu de voir si ça fonctionnait, si ça me plaisait. Et j'ai changé. Et ça m'a fait très peur. Parce que c'est dur quand on a étudié pour faire un métier de se dire « Ah ben non, finalement, je ne vais plus le faire. Je vais faire autre chose. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Mais je sens que ça me plaît vraiment, alors je vais y aller. » Et aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait.
Quelle rencontre vous a donné envie de faire du théâtre ?
La rencontre avec mon premier professeur de théâtre. Je me souviens, j'avais vu passer une annonce avec des petits cours du soir et j'avais dit à deux de mes potes « On y va, c'est un cours d'essai, c'est gratuit, je vous préviens, on s'inscrit pas, c'est trop cher. » Et on fait donc les 3 heures du cours d'essai de théâtre et à la fin, j'étais en train de signer des chèques. J'ai adoré ce qu'il nous a fait faire, les exercices, et c'est comme ça que ça a commencé.
Quelles études avez-vous faites et dans quelle filière ?
Alors, on remonte jusqu'au lycée, non ? J'ai fait un bac qui s'appelle aujourd'hui, je crois, STG. Il s'appelait STT à l'époque. Et je suis partie ensuite faire un BTS communication des entreprises, donc la communication au sens large. Et ensuite, je suis partie dans une école qui s'appelle Sup de Pub, une école parisienne, pour faire un master en direction artistique. La direction artistique, c'est toute la partie graphique et créative, du coup, en agence de publicité. C'est la personne qui va trouver l'idée de la publicité et qui, après, va faire toute la mise en page, la partie graphique, va travailler sur Photoshop, va travailler avec le photographe, le retoucheur. Ça, c'est les études que j'ai faites. Et quand j'ai commencé à faire de plus en plus de théâtre, là, je me suis dit, il faut que je fasse des études théâtrales en parallèle. C'est ce que j'ai fait et je me suis inscrite dans une école qui s'appelle Actors Factory. Et pendant 2 ans, donc, j'ai travaillé vraiment le métier d'acteur, face caméra pour tout ce qui est tournage de films et aussi face public pour le théâtre.
Quand vous avez commencé, pensiez-vous pouvoir réussir dans ce domaine ?
Pas forcément, parce que c'est un domaine qui est compliqué. Il faut vraiment travailler. Et c'est beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce genre de métier. Et il y en a peu, finalement, qui réussissent. C'est pas comme les autres métiers où il y a des petites annonces, on va envoyer son CV, une lettre de motivation. Non, c'est à nous d'aller chercher les castings. On prépare le casting, on est reçu et peut-être on n'a même pas une réponse, même pas pour nous dire vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. C'est vraiment un métier où il faut être acharné et travailler, et ne pas cesser d'y croire. C'est voilà, du travail et des rencontres. Donc au début, bien sûr, j'ai douté. Et puis après, quand j'ai vu que ça commençait à fonctionner, notamment avec la voix, j'ai pris confiance en moi. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais petit à petit, mon réseau s'est élargi et j'ai eu confiance et maintenant tout va bien.
Vivez-vous de votre passion ?
Oui, oui, ça, j'ai un travail qui fait que quand je travaille, j'ai pas l'impression de bosser. C'est vraiment ce que j'aime faire. Des fois, quand j'enregistre une voix, par exemple, et que ça dure un quart d'heure, c'est frustrant en fait pour moi parce que je me dis oh non, encore ! Ouais, donc je vis de ma passion.
Êtes-vous contente de votre salaire et de votre temps de travail ?
Oui, je suis contente parce que mon salaire me permet de vivre. Et le temps de travail, quand on est comédien, on a beaucoup de temps libre. Et en fait, ce temps libre-là, il nous sert à quoi ? Il nous sert à nous enrichir déjà culturellement. Donc moi, dans mon domaine, ça peut être me former à d'autres domaines artistiques. Ça peut être rencontrer des réalisateurs, des metteurs en scène, des directeurs de casting, aller à des expositions, voir des films, écrire. Tout à l'heure, vous avez parlé d'écriture avec Nicolas. Et ça, c'est quelque chose que je fais aussi à côté. C'est vraiment enrichir au plus mon instrument. Enfin, j'ai l'habitude de dire que en fait, mon corps, ma voix, c'est mon instrument, c'est mon outil de travail. Et donc tout ce temps libre me sert à ça.
Pourquoi êtes-vous appelée pour une voix off ?
Alors, je vais vous raconter comment ça se passe. Donc moi, j'ai un agent, c'est une femme qui s'occupe de moi et c'est elle qui reçoit un appel pour dire, par exemple, ce qui s'est passé récemment, on a une nouvelle pub, il nous faut une voix de femme, 25-35 ans, plutôt claire, souriante, solaire, plein d'adjectifs comme ça. Et elle regarde sur son site internet où il y a tous les comédiens qu'elle représente et elle se dit, ben tiens, elle choisit 4-5 personnes, pas plus, pourrait correspondre à ce que le client veut. Donc, elle envoie au client des démos, la bande démo, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure de chacune des comédiennes. Et le client va se dire, eh ben, tiens, ça sera plutôt la numéro 2. Et c'est comme ça qu'en fait, on est choisi. Et donc là, si c'est moi qui suis choisie, mon agent m'appelle, elle me dit, Émilie, tel jour, telle heure, tu vas à tel endroit, séance, et voilà. Je ne connais pas le texte, je le découvre à la dernière minute.
Qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de prêter votre voix ?
Ce qui me passionne, je crois que c'est interpréter à chaque fois des personnages différents. Être quelqu'un d'autre le temps d'une heure, de séance. Parce qu'à chaque fois, on peut me demander soit d'être une maman un peu folle et d'un seul coup d'être une jeune femme un peu plus attristée parce que ça va être une publicité un peu plus lourde, un peu plus triste. Et ça me passionne en fait. L'idée d'être quelqu'un d'autre sur commande et voilà.
Aimez-vous toujours votre métier ?
Je l'adore, j'espère que je le ferai toute ma vie. Vraiment.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
Outre le fait d'interpréter différents personnages, j'aime le fait de travailler à différents endroits. En fait, je ne vais pas tous les jours à la même adresse pour faire la même chose. Je travaille dans plein d'endroits différents. Je rencontre plein de gens différents qui ont toujours quelque chose à m'apporter, même artistiquement parlant. J'aime le fait qu'on puisse me dire, eh ben, aujourd'hui, tu prends le train et tu viens à Compiègne, par exemple, pour faire une interview avec des élèves. Et puis demain, on va me dire, eh ben, tu vas dans ce studio pour enregistrer un livre audio. Voilà ce que j'aime. C'est que c'est spontané et c'est pas monotone. C'est pas tous les jours la même chose.
Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier ?
Eh bien, un peu la même chose, j'ai envie de dire. Parce que, comme je vous dis, c'est jamais la même chose. Je peux être à droite et à gauche du jour au lendemain. Du coup, c'est très dur pour moi de m'organiser, par exemple, pour partir en vacances. À chaque fois, je dis à mes amis, oui, peut-être je peux venir, mais je sais pas, parce que peut-être qu'on va me dire de travailler à tel endroit et j'aurai pas le temps de venir vous retrouver. C'est compliqué, en fait, pour organiser ces choses-là.
Quelle langue parlez-vous ?
Je parle donc français, je parle anglais, italien et un peu hébreu.
Courante ?
Alors, l'hébreu, pas courant, parce que j'ai commencé à apprendre il y a 3 ans. Mais l'italien et l'anglais, oui.
Avez-vous déjà doublé une voix off d'une autre langue ?
En italien, oui.
Qu'avez-vous fait comme voix off ?
J'en ai fait beaucoup, donc beaucoup de publicité. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire, mais si vous avez la télé ou la radio, vous m'avez, je pense, déjà entendu sans le savoir. Ensuite, j'ai fait des livres audio. Il y a un énorme public de gens malvoyants qui adorent écouter les livres audio parce que ça leur permet d'entendre les histoires qu'ils ne peuvent pas lire par eux-mêmes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément lire qui le font, ou ceux qui ont des longs trajets en voiture ou en train. Et du coup, moi, on me demande souvent de lire des livres, des histoires d'amour. Après, c'est par rapport à la voix, en fait. Donc moi, on me fait lire soit les histoires d'amour, soit les histoires horribles, sanglantes. Du coup, ça contrebalance, j'imagine, avec le ton de ma voix. Et j'ai fait également un peu de doublage. Alors ça, c'est quelque chose que je débute depuis peu. J'ai fait ça sur une série Netflix qui s'appelle Dracula. J'ai fait ça pour un reportage sur une famille dans une ferme en Australie. Et depuis peu, je travaille sur un manga. Me demandez pas le nom, c'est un nom japonais, je l'ai oublié. Et ça, c'est un travail vraiment différent parce que les Japonais, ils crient très fort, c'est plein d'énergie. Et nous, en France, on n'a pas l'habitude de crier autant dans les films, dans les dessins animés. Ce qui fait que moi, quand j'ai enregistré la première fois, j'avais l'impression d'en faire trop. Et la personne qui s'appelle un directeur artistique qui dirige la séance m'a dit « Non, non, Émilie, crie vraiment, vas-y. » Je l'ai fait. Et c'est vrai qu'après, en réécoutant, on se rend compte que finalement, ça fonctionne. Et ça, c'était vraiment un exercice intéressant de travailler sur un dessin animé d'une part et le fait que ce soit un manga, quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire par ici.
Parmi les personnages que vous avez doublés, lequel est votre préféré ?
Eh bien, je vais reparler donc de ces personnages dans le manga. Ce sont mes personnages préférés parce que c'est ceux qui me demandent le plus d'efforts, en fait. Il faut vraiment que je cherche à coller au personnage à l'écran, à avoir la même énergie et que ce soit crédible une fois qu'on entend le son avec l'image du manga pour qu'on y croit. Donc, ouais, c'est ce que je préfère faire.
Dans quelle série avez-vous joué ?
J'ai joué dans on peut appeler ça une web-série, donc qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle « En loge avec Patrick Bruel ». Et l'idée, c'est Patrick Bruel avant un concert qui est dans sa loge et il se passe à chaque fois quelque chose de différent. Et moi, du coup, j'interviens comme étant sa régisseuse. C'est celle qui s'occupe un peu de tout pour lui avant qu'il rentre sur scène. Donc, c'était assez drôle à faire.
Avez-vous déjà regretté de faire ce métier ?
Non, peut-être une fois, parce qu'on ne rencontre pas toujours des belles personnes dans ce métier, comme partout, et tout le monde n'est pas sympathique. Et je me souviens qu'à mes débuts, j'enregistrais un spot radio, je ne me souviens plus de la marque, mais la personne qui me dirigeait sur cette séance, c'était un mec qui était hyper pointilleux. Il me reprenait sur chaque syllabe. À chaque mot, il m'arrêtait. Il était vraiment horrible avec moi. Et je me souviens que je suis même partie pour pleurer aux toilettes. Je suis revenue. Et aujourd'hui, en fait, quand je repense à cette histoire qui était à mes tout débuts, j'ai envie de me dire, mais pars de cette séance. C'est pas normal de ne pas se faire respecter comme ça dans le travail. Mais comme j'étais comme débutante, j'ai pas osé m'imposer. Et lui, il m'a fait perdre ma confiance en moi à ce moment-là. Et oui, j'ai pu regretter ce jour-là de me dire... Pourquoi je fais ce métier ? J'aurais pas dû, je suis pas faite pour ça. Alors que c'était juste lui qui était pas bienveillant avec moi.
Avez-vous regretté de faire une publicité ?
Non, mais j'ai refusé déjà de faire une publicité. C'était une publicité pour la Fédération française de chasse. C'est quelque chose que je ne soutiens pas du tout. Et au début, on m'avait pas dit que c'était ça. On m'avait dit que c'était pour la FFC. Je ne savais pas que c'était la Fédération française de chasse. Et quand je l'ai découvert, j'ai dit que je refusais.
Quand est-ce que vous avez eu l'idée de faire le podcast ? Le hasard n'existe pas. Et pourquoi ?
Alors, l'idée, je l'ai eue au mois de novembre. C'est une histoire que j'ai écrite il y a 2 ans, une histoire personnelle. Et j'ai toujours voulu la faire vivre d'une manière ou d'une autre, mais je n'avais pas pensé au podcast. Et d'un seul coup, c'est venu dans ma tête et je me suis dit, mais oui, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que j'ai un micro chez moi, je travaille avec ma voix, le texte, c'est moi qui l'ai écrit, il faut le faire. Et après, ça s'est fait très vite. Donc, c'est vraiment venu. Des fois, vous savez, on a une idée qui arrive dans la tête, on ne sait pas pourquoi on l'a eue, comme si quelqu'un nous l'avait soufflée. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé.
Comment avez-vous vécu les retrouvailles avec votre famille biologique ?
Alors, donc, le hasard n'existe pas. C'est donc, comme je vous disais, une histoire personnelle qui fait qu'un jour, sur le lieu de mon premier travail quand j'étais graphiste, j'ai entendu une conversation entre deux de mes collègues et elles parlaient de leurs enfants et du groupe sanguin de leurs enfants. Et elle disait « Ah ben moi, ma fille a le même groupe sanguin que moi. » Et l'autre disait « Ah ben moi, elle a le même groupe sanguin que mon mari. » Et moi, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours connu mon groupe sanguin, celui de ma petite sœur et celui de mes deux parents, par cœur, sans raison. Et ce qui fait que ce jour-là, quand j'ai entendu cette conversation, ça m'a interpellée. Je me suis dit « C'est bizarre, moi, j'ai pas le même groupe sanguin que mes parents. » Et c'est comme ça que j'ai découvert donc, que mon père n'était pas mon père biologique. Et suite à ça, ma mère m'a expliqué que j'avais raison, mais que c'était un secret, que personne ne devait le savoir. Et pour elle, elle estimait que comme j'étais en bonne santé, que j'avais une famille, que j'étais une fille équilibrée, il n'y a pas de problème, je devais garder ce secret. Et donc j'ai gardé le secret. Pendant 4-5 ans, je savais que j'avais un père quelque part, mais où ? Mystère, et j'avais aucun moyen de le savoir parce que ma mère me disait qu'elle n'avait pas de numéro de téléphone parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Elle se souvenait d'un nom, mais juste un prénom, ça ne servait à rien. Pour moi, ça ne m'aidait pas. Et un jour, 4 ans après, par hasard, j'ai reçu un message sur Facebook d'une fille qui s'appelle Eva, une ado, et elle m'a demandé le prénom de ma mère. Et j'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, ce qui était surtout très bizarre, c'est qu'elle me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Parce que moi, je n'ai jamais ressemblé à personne chez moi. Je suis la seule avec les yeux verts, avec les cheveux bouclés. Et ensuite, elle m'a demandé ma date de naissance. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc. Après, on s'est appelé. Et là, elle m'a passé sa mère au téléphone. Et sa mère m'a dit, bonjour Émilie. Mon mari m'a toujours dit, je crois que j'ai une fille, mais je ne suis pas sûre, j'étais jeune. Et elle et lui se souvenaient du nom de ma mère, donc il a cherché sur Facebook avec sa femme. Et elle me dit « Tu ressembles tellement à ma fille, comme deux gouttes d'eau, qu'on t'a envoyé un message. » Et ce qui est fou, c'est que c'est bel et bien mon père biologique, c'est ma sœur. Enfin, j'ai gagné 5 nouveaux frères et sœurs. Et si je vous dis que la vie n'est pas un hasard, c'est que lui, ils habitent à Paris comme moi, il a une serrurerie, et sa serrurerie, elle est sur le trottoir en face de mon école d'acteur. Ça veut dire que pendant des années, j'étais en face de mon père biologique, sans le savoir en fait. Donc voilà pourquoi mon podcast s'appelle « Le hasard n'existe pas ». Et donc pour répondre à ta question, comment se sont passées les retrouvailles ? Elles se sont passées super bien. Ils ont tout de suite voulu passer des appels en FaceTime en Tunisie, en Israël, pour me montrer, parce qu'ils ont de la famille là-bas. Ils m'ont tout de suite intégrée à la famille.
Quel est le projet dont vous êtes le plus fière ?
Eh bien, je crois que c'est ce podcast, parce que, sans le savoir, même si cette histoire, elle a été un gros chamboulement dans ma vie, aujourd'hui, j'en ai fait un podcast, je recherche une maison d'édition pour en faire un livre, et j'ai surtout l'envie de monter cette histoire à l'écran, que ce soit au cinéma ou à la télé, donc je sens que ça va être mon tremplin pour des futurs projets, donc j'en suis très fière.
Comment on fait une bonne voix off ? Avez-vous des conseils à nous donner ?
Alors oui, déjà il faut travailler sa diction. Alors il y a des petits exercices qu'on nous fait faire, notamment au théâtre, c'est de mettre un crayon dans la bouche comme ça et s'entraîner à lire à voix haute un texte en articulant bien. En fait, il faut vraiment bosser ça. Sinon, c'est l'interprétation. Alors ça, il n'y a pas de secret, faire des cours de théâtre et de théâtre et de théâtre. Il faut s'entraîner à éprouver les émotions, à interpréter des personnages. Et ensuite, des petits tips de dernière minute. Alors moi, je ne le fais pas, mais il paraît que c'est bien de le faire. C'est boire de l'eau avec du citron pressé avant d'enregistrer parce que ça éclaircit la voix. Voilà, il ne faut pas boire de café, j'en bois tout le temps. Voilà, c'est des petits tips comme ça.
Est-il facile de jouer plusieurs sentiments ?
Pas forcément. Il faut bien se préparer, c'est un échauffement. C'est comme un sportif, avant d'aller sur le terrain, il va s'échauffer. Et bien, le comédien, c'est pareil. Par exemple, le footballeur, pour marquer le meilleur but, il va vraiment devoir s'échauffer, penser toute sa stratégie avant. Et ben, le comédien, c'est exactement la même chose. S'il fait semblant, personne n'y croira et ça ne marchera pas.
En moyenne, vous prenez combien de temps pour faire une voix off ?
En moyenne, c'est des séances qui durent 1 heure. Après, ça dépend. Ça peut durer un peu plus longtemps s'il y a beaucoup de choses à enregistrer ou si par exemple la semaine dernière j'enregistrais quelque chose et c'était juste 3 lignes, donc je suis restée que 5 minutes.
Et c'est déjà arrivé que vous ayez fait 6 heures?
Oui, pour des livres audio.
Ouh,
faut lire tout le livre. En fait, quand tu sors de ce genre de séance qui dure 6 heures, t'as très mal aux cordes vocales. C'est comme si c'était un muscle et t'as plus envie de parler aux gens, t'as les yeux, tu vois, double. C'est vraiment sportif, physique, quoi.
Avec combien de personnes travaillez-vous pour un tournage de publicité ?
Je travaille en général avec l'ingénieur du son. C'est lui qui va gérer tout l'enregistrement et qui va me dire si ma voix est juste. C'est lui qui va repositionner ma voix s'il y a un décalage, qui va nettoyer ma voix s'il y a des petits bruits de bouche dont on vous a parlé tout à l'heure. Sans lui, c'est pas possible de faire l'enregistrement, clairement. Et il y a un directeur artistique qui est la personne qui va me dire « Émilie, ok, c'est bien, mais là, essaye de mettre un peu plus de sourire dans ta voix. Essaye de faire en sorte qu'on sente que tu es gênée, mais en même temps, tu es contente. » C'est lui qui va être un peu comme le chef d'orchestre de la séance pour pouvoir me diriger. Donc en général, on est 3 et il peut y arriver que le client soit présent pour dire « Ah oui, je préfère cette version-là, la version qu'on a enregistrée avant. » Voilà. Ou des fois, ils sont à distance et ils écoutent à distance.
Est-ce que vous passez des castings pour les voix off? Si oui, comment ça se passe?
Les castings, alors de base, c'est mon agent qui, elle, a déjà tout ce que j'ai déjà fait comme travail. Donc quand un client cherche une voix, elle va envoyer un travail que j'ai déjà fait en exemple. Et disons que le casting se fait tout seul. Mais des fois, il y a des clients qui se disent « Oui, non, moi, je préfère voir le comédien pour lui faire faire un essai sur un petit bout de mon texte. » Et à ce moment-là, oui, je me déplace et je passe donc le casting voilà, comme ça.
Avez-vous une anecdote insolite en rapport avec votre métier à nous partager?
Alors, je ne sais pas si elle est insolite, mais j'ai une anecdote. C'est qu'à l'époque, quand je travaillais comme graphiste, une fois, je suis allée en séance d'enregistrement de voix off pour enregistrer des comédiens qui faisait donc le métier que je fais aujourd'hui, mais moi, je ne le faisais pas encore. Et il y avait un garçon et une fille. Et je me souviens, je les ai regardés et je me suis dit, oh là là, ils ont de la chance, j'aimerais tellement faire ce qu'ils font. Et l'année dernière, à 2 semaines d'intervalle, j'ai enregistré des voix off avec le mec que j'avais vu et après avec la fille en question. Je me suis retrouvée en séance où j'étais comédienne avec eux pour faire une voix off et je me suis dit, mais c'est dingue. Il y a 5 ans auparavant, j'étais en train de rêver en les voyant travailler et maintenant je travaille avec eux. Voilà.
Si vous deviez changer de métier, lequel choisiriez-vous et pourquoi?
Je sais pas. En fait, quand j'étais petite, je me disais que quand je serais à la retraite, j'aimerais bien travailler dans une maison de la presse pour lire tous les magazines. Mais bon, aujourd'hui, je sais pas. J'aime trop mon métier. J'aimerais ne jamais changer. Pour le moment.
Que diriez-vous à la jeune Émilie?
D'y croire et de ne pas, pas oublier ses rêves. Parce que, pas dans toutes les familles, mais il y a des familles, notamment la mienne, où le fait d'être comédienne, pour mes parents, c'est pas un métier, en fait. Et aujourd'hui, ils se disent « Ah oui, si, ok, d'accord. » Mais ils ne m'ont pas du tout encouragée dans cette voie-là. Si moi, je voulais faire du théâtre quand j'étais plus jeune, à côté de l'école, c'était non. Si je voulais faire une école de théâtre au lieu des études que j'ai faites, c'était non. Encore qu'aujourd'hui, je ne regrette pas parce que ça m'a apporté des choses, mes études. Vraiment, c'est important d'avoir plein de bagages avec soi. Et si je n'avais pas travaillé dans le monde de la publicité avant en étant graphiste, et ben, aujourd'hui, quand j'enregistre des voix de publicité, je ne serais pas autant capable de comprendre ce que veut le client. Parce qu'avant, comme j'ai travaillé de l'autre côté, dans la conception publicitaire, et ben, aujourd'hui, quand moi, j'interprète leur publicité, je comprends ce qui s'est passé avant.
Qu'est-ce que vous aimez partager sur vos réseaux sociaux ?
Sur Instagram, disons que c'est comme ma vitrine en tant que comédienne, c'est comme mon book où il y a toute mon actualité, que ce soit au théâtre, à l'écran, en voix. Voilà, c'est important parce qu'en fait, il y a beaucoup de directeurs de casting qui maintenant vont chercher les comédiens sur Instagram pour voir comment on est dans la vie de tous les jours, quelles sont nos aptitudes et tout ça. Ensuite, TikTok, je l'utilise un peu moins pour mon métier, je m'en suis plus servie pour mon podcast pour lui donner une notoriété, c'est-à-dire pour toucher un autre public que je n'arrivais pas à toucher sur Instagram, notamment un public plus jeune que moi. Et ça a très bien marché comme ça. C'est un autre exercice parce qu'on ne s'exprime pas de la même manière sur TikTok que sur Instagram. Voilà. Et Facebook, ouais, c'est plus un réseau que j'utilise beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est vraiment en train de, de mourir. Donc voilà, principalement Instagram, TikTok et ensuite mon site perso que je mets à jour dès que j'ai des nouveautés qui sortent.
Merci Émilie Ramé d'avoir répondu à nos questions. Merci aux auditeurs d'avoir écouté notre émission. Retrouvez le podcast d'Émilie, Le hasard n'existe pas, à l'adresse www.lehasardnexistepas.fr.
Et réécoutez notre émission sur www.graphique.net.